France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
À quoi ressemblent les paysages de Titan, la plus grande lune de Saturne, les sous-sols de Mars ou ceux d'Encelade, autre satellite saturnien? Ce sont ces questions qui animent cette planétologue, Alice Le Gall est notre invitée. Grâce à la technique du radar, l'astrophysicienne explore toute la diversité des visages du système solaire. Elle participe à de nombreuses missions d'exploration spatiale, comme la future ExoMars, qui sondera les profondeurs martiennes, ou encore Dragonfly, qui ira observer de plus près les incroyables panoramas de Titan, l'un de ses astres préférés. Elle a d'ailleurs cartographié la surface de ce monde aux paysages d'une variété et d'une richesse insoupçonnées. Montagnes, dunes de 200 mètres de haut, les micro-ondes radar permettent même de détecter ce que l'on pense être des vagues sur des lacs d'hydrocarbures. Alice Le Gall, un travail de titan. Et Alice Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, enseignante-chercheuse à Sorbonne Université, spécialiste des surfaces et sous-surfaces du système solaire au laboratoire Atmosphère, Observation Spatiale, le LATMOS, et vous êtes également médaille du bronze du CNRS 2018. Grand merci d'être là avec nous.
Avec plaisir.
Merci beaucoup et merci à vous d'être là à l'écoute, en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment obtenir une cartographie de surface par la technique du radar? Qu'a-t-on appris de Titan de cette façon? Et quelles sont vos futures missions sur lesquelles vous travaillez? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, avant toute chose, Alice Le Gall, pourquoi le choix de la planétologie? C'était un rêve d'enfant?
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée de science, mais je vais passer aux aveux tout de suite. Je n'appartiens pas, par exemple, à la culture des clubs d'astronomie. J'ai peu observé le ciel et étant petite, déjà parce que je suis née, j'ai grandi à Paris. Aïe. Ensuite, je suis excessivement myope. ça n'excuse pas. Cela étant dit, évidemment qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est pas ce qui m'a amenée vers la planétologie. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis une planétologue qui regarde en fait les surfaces et les sous-sols. Je regarde mes pieds, quoi. et pas forcément vers le ciel. Et je dirais que c'est plutôt les marches en montagne. Je suis en partie d'origine béarnaise. Et de façon plus générale, l'exploration des paysages sur Terre qui m'ont donné envie de comprendre pourquoi sur Mars on trouve des chenaux de rivières évidemment asséchés aujourd'hui, pourquoi sur Vénus il y a des volcans par milliers. Voilà, ce sont ces marches, finalement ces randonnées qui m'ont donné, et puis bien sûr évidemment les images des missions notamment martiennes qui m'ont poussé vers la planétologie.
On verra comment justement vous mettez en œuvre cette nouvelle randonnée spatiale en quelque sorte. Je lisais dans une interview aussi que ce sont les récits de voyages de grands explorateurs qui vous ont beaucoup marqué.
Oui, tout à fait. Je pense que Alexandra David Nel, notamment son livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », m'a beaucoup influencé. Et j'ai toujours aimé les livres sur l'exploration. Je crois qu'un de mes livres préférés, c'est Magellan de Stefan Zweig. Donc, c'est vrai que dans la planétologie, il y a aussi évidemment la notion d'exploration spatiale. Donc, on va chercher des terra incognita au-delà de celle de la Terre, et il en reste quand même sur Terre. J'ai envie de participer à mon humble niveau à cette aventure-là.
Et d'ailleurs, en tant qu'astrophysicienne, pourquoi les planètes et pas les étoiles ou les trous noirs? Là encore, c'est l'aspect palpable?
Exactement, oui, c'est le fait de pouvoir les toucher. Alors, peut-être pas directement, mais par instruments interposés, voire même des fois en y envoyant des robots. Oui, c'est le côté solide physique, hein, parce que non seulement c'est les planètes, mais c'est les surfaces, je m'intéresse moins aux atmosphères des planètes ou des satellites, si ce n'est par la façon dont elles vont affecter les surfaces. Donc oui, c'est l'aspect solide.
Ça, c'est justement, ces surfaces, cet aspect solide, c'est quelque chose que vous avez commencé à étudier et à toucher, entre guillemets, de près depuis votre DEA. C'est là où vous approchez cette technologie des radars. Peut-être qu'on peut dire que nous permet justement cette technologie.
Oui, alors les radars, c'est assez rare d'ailleurs en astrophysique, c'est un système d'observation actif. En général, les astrophysiciens, se contentent d'être passifs, c'est-à-dire d'écouter, de recevoir des signaux qui leur viennent. Là, on a un instrument qui est sa propre source, qui a sa propre source de rayonnement, qui émet des ondes vers une surface ou un sous-sol, si la cible est le sous-sol, et qui va finalement mesurer la fraction de ces ondes qui revient dans sa direction. Et de cette mesure, va en déduire des choses sur la composition, la structure et la nature de cette surface ou de ce sous-sol. Donc il y a différents types de radars. Il y a des radars qui sont vraiment conçus pour cartographier les surfaces, notamment si elles ne sont pas cartographiables dans le domaine visible, parce que cachées par une atmosphère opaque, notamment. C'est le cas pour Titan, c'est le cas pour Vénus. Et puis il y a des radars dont l'objectif est d'aller au-delà de la surface et de cartographier, de proposer, d'offrir une coupe du sous-sol pour en révéler la stratigraphie, par exemple.
Titan, c'est un astre que vous avez commencé à approcher également pendant votre parcours, puisque 2007, vous passez votre doctorat en planétologie et télédétection à l'université Pierre et Marie Curie. Votre thèse porte sur le sondage du sous-sol de Mars par radar à pénétration de sol. Et en 2008-2011, là, vous passez votre post-doctorat à la NASA, au Jet Propulsion Laboratory, le célèbre JPL. Et à ce moment-là, en fait, a lieu ces survols de Titan.
C'est ça.
Vous êtes un peu au cœur du réacteur à ce moment-là.
Exactement. Ça a été une expérience incroyable parce que je suis arrivée donc en 2008 au JPL. La mission qu'a signée Huygens, c'était déjà depuis 4 ans dans le système de Saturne. Et donc, on avait déjà fait des grandes découvertes, mais il restait encore... finalement, c'est une mission qui s'est achevée en 2017, donc encore de nombreuses, presque 10 ans d'observation et de cartographie, en particulier de Titan. À peu près tous les mois, on avait un survol et une nouvelle image de Titan qui se révélait un petit peu comme des nouvelles pièces d'un puzzle qui prend forme et qui nous a permis à la fin de la mission d'avoir une cartographie quasiment totale de cette lune de Saturne, cette plus grande lune de Saturne.
Et bien c'est parti en route pour notre randonnée spatiale.
Cette mission Pionier 11 est tout à fait extraordinaire. Alors je voudrais tout de suite vous montrer deux photos qui nous ont été transmises par Pionier 11. Alors voilà, vous allez voir cette première photo, et je le sais, vous allez être déçus, c'est la photo des anneaux de Saturne. Et puis une deuxième photo de Saturne. Ces photos, vous le voyez, ne sont pas très belles. Ces photos de Saturne sont moins bonnes que les meilleures qu'on a prises depuis la Terre. C'est parce que sur les photos brutes, seulement on a complètement oublié la performance extraordinaire d'envoyer des signaux d'un milliard et demi de kilomètres. Eh bien, pour les recevoir dans ce fouillis de bruit de fond, il faut un énorme travail d'ordinateur. Cette mission de Pionier 11, songez qu'il n'y a que 30 kilos d'appareils scientifiques à bord de cet engin, qui est une sonde planétaire de première génération, mais qui déjà nous a fourni toutes sortes de renseignements sur Saturne. Saturne, c'est très important, parce que c'est une grosse planète du même type que Jupiter, mais un monde moins en furie. Il y a ainsi des tourbillons de gaz extraordinaires, mais sans doute moins énorme que ce qui se passe sur Jupiter. En comparant les deux, on va mieux comprendre ce phénomène de ces grosses planètes qui sont un peu comme des étoiles avortées. Et puis, donc, ces anneaux, maintenant, on sait qu'il y en a 6. Et puis, surtout, on attendait Titan, donc, parce que, comme depuis la Terre, on avait vu autour de ce satellite, mais qui a la masse à peu près de Mars, n'est-ce pas, on avait vu de l'atmosphère de méthane. On se disait que c'était peut-être un bon berceau sur la vie, mais à une condition, qu'il fallait qu'il fasse assez chaud sur Titan, parce que le berceau de la vie doit être un peu chaud. Alors, quand on a braqué les engins sur Titan, eh bien, on a capté des signaux, et quand on a pu analyser ces signaux, eh bien, on a vu qu'il fait très froid, trop froid, sans doute, sur Titan, pour qu'il y ait une évolution biologique.
Voilà, le 20h de TF1 en 1979, et le journaliste François de Closet qui semble complètement habité par cette mission pionnière 11, Alice Le Gall.
Oui, et il a raison de dire qu'il fait froid sur Titan, il fait moins 180 degrés en moyenne. Cette mission Pionier 11, comme son nom l'indique, a été pionnière. Elle a survolé le système de Saturne, et en particulier Titan, donc on a des descentes, si vous voulez tout savoir. Et suite à cette mission, il y en a eu deux autres de la NASA, Voyager 1 et Voyager 2, et toutes ces trois missions au NASA se sont en fait cassées les dents sur Titan. On savait que Titan, déjà à l'époque, était entouré d'une atmosphère, mais on ignorait à quel point cette atmosphère était opaque. Et aucune de ces missions, aucune de ces sondes qui ont survolé le système de Saturne n'était munie justement d'instruments capables de voir à travers cette atmosphère et les brumes de Titan en particulier. Donc, il a fallu attendre la mission Cassini-Huygens pour révéler les paysages de Titan. Une mission qui, en plus, cette fois, ne se contentait pas de survoler le système, mais se mettait en orbite autour de Saturne.
Et puis en orbite, on a 13 ans d'orbite de cette mission. Ça, c'est une durée d'étude qui est énorme. Ça a permis de collecter énormément de données, donc.
Oui, c'est énorme et ça couvre en plus deux saisons sur Saturne. Donc le système de Saturne met 30 ans à faire le tour du Soleil, donc une saison, hein, c'est environ 7 ans et demi, donc 13 ans et demi de données, c'est environ deux saisons. Et ça, c'était très intéressant parce que ça nous a permis d'observer des phénomènes saisonniers dans le système de Saturne et en particulier sur Titan. Vous parliez tout à l'heure des lacs d'hydrocarbures liquides de Titan. Eh bien, on a pu observer à la fin de la mission, lorsque l'été s'installait au pôle nord de Titan, là où sont les lacs, des vagues qui apparaissaient sur ces lacs.
Et là, ce moment où justement cette sonde Cassini-Huygens arrive dans le système de Saturne en 2004, ce moment-là, on a un enregistrement sonore, d'ailleurs le voici. Et là, à ce moment-là, Alice Le Gall, là, on fait passer la sonde dans le plan des anneaux de Saturne, un trou des anneaux qu'on appelle la division Cassini, mais qu'est-ce qu'on entend plus précisément?
Oui, on le fait passer à un endroit. Alors là, on entend justement les impacts de quelques particules d'anneaux qui sont quand même dans cette région qui est particulièrement peu dense. C'était quand même une opération assez périlleuse, la sonde se déplaçant à plusieurs kilomètres par seconde. Et donc l'antenne de communication de la sonde Cassini, qui est aussi l'antenne du radar de Cassini, a été mise un peu comme un bouclier lors de ce passage pour garantir la sécurité du reste de la sonde et de ses instruments.
C'est donc ce fameux radar qui a donc permis de percer l'atmosphère opaque de Titan. On parle de Titan comme d'autres corps, comme des corps dits pudiques, lorsque leur surface est cachée par une épaisse atmosphère.
Oui, alors il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a Titan et Vénus, dont l'atmosphère est encore plus dense que celle de Titan, puisqu'à la surface de Vénus, la pression est de 90 bars, donc 90 fois la pression à la surface de la Terre. Les conditions de température sont d'ailleurs infernales, hein. Il fait presque 500 degrés à la surface de Vénus. Et puis la troisième planète pudique, si j'ose dire, c'est la Terre, qui de temps en temps se cache derrière des nuages, dont les paysages en tout cas sont masqués de temps en temps par des nuages. Mais finalement, c'est assez rare dans le système solaire des corps entourés d'une atmosphère dense. Certains corps, comme Mars, comme Pluton, ont des atmosphères, mais nettement plus ténues et donc transparentes dans le domaine optique ou dans l'infrarouge.
Alors pourquoi est-il si important justement d'avoir accès à ces surfaces, voire à ces sous-sols d'astres?
Mais pour essayer de comprendre quelle a été leur histoire géologique et comment ils ont évolué et comment ils s'inscrivent dans la grande histoire du système solaire. Les sous-sols, c'est particulièrement important parce que souvent, ce sont des histoires qui sont faites d'impact, d'érosion, de volcanisme et dont le sous-sol va garder une trace sous la forme d'une superposition, par exemple de coulées de lave, d'éjecta. Et donc, être capable de révéler la stratigraphie du sous-sol, les structures enfouies, c'est remonter finalement dans le temps et essayer de retracer en fait la chronologie des événements qui ont façonné et affecté un corps du système solaire.
Voilà, étudier ces surfaces, en effet, retracer l'histoire de chacun de ces corps. Quelles sont les stratégies pour justement ces corps pudiques, je trouve l'expression assez jolie, qui ne se livrent pas facilement au regard. Comment on les explore, ces corps-là?
Donc, en l'occurrence, Titan et Vénus, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle des radars ou un radar imageur pour cartographier la surface. Ce radar va nous donner des images qui ressemblent de loin à des images optiques qui dans la pratique, sont un petit peu plus, difficiles à analyser, un peu moins jolies, un peu moins esthétiques, mais qui vont permettre de dresser des cartes. Alors là, actuellement, on a une carte de Titan qui a une résolution d'au mieux 300 mètres. Celle de Vénus, c'est au mieux une centaine de mètres. On espère faire bien sûr beaucoup mieux dans le futur, mais c'est suffisant pour révéler les paysages de Titan, révéler les paysages de Vénus qui sont dominés sur Vénus par le volcanisme. Sur Titan, c'est vraiment le cycle du méthane, le cycle des hydrocarbures qui domine, qui façonne de façon prédominante les paysages avec donc ces mers d'hydrocarbures dont on a déjà parlé, mais aussi des lacs. Des rivières asséchées ou emplies de liquide, d'hydrocarbures liquides, hein, je rappelle qu'il fait moins 180 degrés. Donc c'est cette technique, ces radars imageurs qui vont vraiment permettre de dresser ces cartes et ensuite d'essayer de comprendre comment s'organisent les paysages, quel est le climat, même la météo, on peut même parler de météo sur Titan, quelle est la météo, quel est le climat et comment l'histoire climatique des planètes a pu évoluer dans le temps.
Bien justement, on continue de se balader, entre guillemets, sur Titan, on va voir comment vous avez participé à la cartographie globale de cet astre. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec la planétologue Alice Le Gall qui étudie les surfaces et les sous-sols des corps célestes grâce à la technique du radar. Alice Le Gall, vous avez participé donc à cette cartographie globale de Titan avec des résultats publiés dans la revue Nature Astronomy en 2020. Alors là encore, comment est-ce que vous avez travaillé précisément sur ces données radar ?
Alors sur Titan, j'ai beaucoup travaillé sur les dunes de Titan. J'ai passé énormément d'heures à cartographier ces dunes, ça veut dire à entourer à la main leurs contours, alors sur un ordinateur évidemment, mais un peu, je me souviens que quand je faisais ce travail, je me comparais un petit peu aux archéologues, aux préhistoriens qui se sont amusés à redessiner les peintures pariétales dans la grotte de Lascaux, parce que quand on fait ce travail, non seulement bon, ça a une utilité, ça nous permet de mieux comprendre la distribution, en particulier des dunes sur Titan, et de faire le lien avec un climat qui doit être aride, parce que là où il y a des dunes, en général, il pleut peu, le sol est sec. Et en même temps, on apprend à connaître l'astre sur lequel on travaille, et on le découvre, et on en voit aussi toute la variabilité, toutes les nuances. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les dunes du Titan pour comprendre pourquoi on les trouve aujourd'hui que dans la ceinture équatoriale de Titan, donc tout simplement parce que c'est la zone la plus aride de ce satellite, la zone où il pleut le moins. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les rivières de Titan, qui sur les images radar apparaissent particulièrement brillantes. Ça veut dire qu'elles il y a des choses dans ces lits de rivière qui sont en général asséchées. Il y a des éléments qui rétro-réfléchissent les ondes qui sont émises par le radar. Et ça, on peut l'expliquer par la présence de galets ou d'analogues à nos galets qu'on trouve dans les lits de rivière asséchés sur Terre. Et bien, dans les rivières de Titan, il y a dans le lit de ces rivières des galets faits probablement de glace d'eau qui renvoient très fort vers le radar, les ondes qu'il a émises, un peu comme un boomerang, et qui rendent ces rivières particulièrement brillantes sur les images radar. Donc voilà, c'est des questions auxquelles je me suis intéressée sur Titan.
Par rapport justement à ces dunes équatoriales, qui font donc jusqu'à 200 mètres de haut, finalement elles ressemblent presque aux dunes qu'on peut observer en Namibie.
C'est ça, exactement. Donc c'est des champs de dunes à perte de vue. Hein. On a recensé 20 000 dunes sur Titan. Donc on s'était amusé à calculer que ça correspondait à 400 milliards de tonnes de sable. Donc c'est plus que la quantité de sable sur Terre. Ce sont des dunes qui sont parallèles entre elles. On parle de dunes linéaires qui s'étendent sur des centaines de kilomètres, qui sont larges de quelques kilomètres et qui effectivement peuvent s'élever de plusieurs centaines de mètres, hein, comme la Tour Eiffel. Donc ce sont vraiment des dunes géantes dont le sable n'est pas fait de quartz ou de matière silicatée comme sur Terre, mais a priori de matière organique, c'est-à-dire de matière avec du carbone dedans, qui serait formée dans l'atmosphère de Titan. Dans l'atmosphère de Titan, il se passe plein de réactions chimiques qui créent des aérosols organiques qui se déposent à la surface et qui sont ensuite sculptés, façonnés par l'érosion et organisés par les vents en dunes.
Là, vous parlez en effet de ce qui se passe dans l'atmosphère de Titan. On a sur Titan aussi un cycle du méthane et d'éthane, de la même manière qu'il y a un cycle de l'eau sur Terre.
Exactement. Donc, je disais que sur Titan, il fait moins 180 degrés. Et la pression, donc ça c'est glacial, hein, très différent des conditions terrestres. En revanche, la pression à la surface de Titan est très proche de la pression à la surface de la Terre. 1,5 bar. Sur Terre, il fait 1 bar. Et ces conditions de pression et de température correspondent à ce qu'on appelle le point triple du méthane. C'est-à-dire le point pour lequel le méthane peut exister à la fois sous forme liquide, solide et gazeuse. Exactement comme sur Terre, où les conditions permettent à l'eau d'exister sous ces trois états. Et donc, on a un cycle du méthane et dans une moindre mesure de l'éthane, qui est un autre hydrocarbure, sur Titan, comme on a un cycle de l'eau sur Terre. Donc, on parlait du fait qu'il y a des lacs, des rivières d'hydrocarbures sur Titan. Ces rivières, ces lacs s'évaporent, donnent naissance à des nuages qui, de temps en temps, précipitent, donc il y a des pluies. Il y a peut-être même un système, un réseau, on appelle ça un alcanofère, un réseau souterrain de liquide. Peut-être que les lacs communiquent, peut-être que le liquide aussi circule dans le sous-sol. Peut-être même qu'il y a des grottes ou des hommes du paléolithique pourraient dessiner des beaux dessins.
Ben là, ce cycle du méthane et d'éthane sur Titan, cette forme solide, on peut aussi imaginer des icebergs de méthane sur les lacs. En fait, ce que vous nous décrivez là, ce sont des paysages qui ressemblent à s'y méprendre, à des paysages terrestres, alors qu'on est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles Titan est l'un de vos corps du système solaire préféré.
Exactement. C'est à la fois étrange comme monde, parce que vous l'avez dit, on a plus d'un milliard de kilomètres, il fait très très froid, on est autour d'une planète qui, c'est une lune, hein, c'est un satellite d'une planète très particulière, et en même temps, on a des paysages qui sont familiers, des dunes, des mers, des lacs, quelques montagnes, peut-être des cryovolcans, donc des volcans, mais qui opéreraient à très basse température. Et les seules choses peut-être qu'on a moins l'habitude de voir sur Terre, mais qui existent tout de même, ce sont des cratères d'impact. Mais il y en a très très peu. Il y en a une centaine à tout casser. Donc à peu près la même chose que ce qu'on trouve sur Terre. Donc c'est vraiment une surface qui ressemble à la nôtre, malgré des conditions et des ingrédients très différents, puisque la croûte de Titan est faite de glace d'eau. C'est un satellite de glace, donc composé à 50% de glace d'eau. Donc sa croûte, c'est de la glace d'eau, très dure, très froide, recouverte de cette matière organique dont je parlais tout à l'heure, qui est produite dans l'atmosphère et qui sédimente, ça veut dire qui descend et se dépose progressivement à la surface.
Alors, est-ce qu'il existe sur Titan de la vie comme sur Terre ? La question est posée dans l'ouvrage Le Grand Livre de l'Exobiologie. Je vous propose un extrait du chapitre Rendez-vous sur Titan que vous avez écrit. Beaucoup des ingrédients de la vie telle qu'on la connaît sur Terre semblent réunis sur Titan. 1. De la matière organique à foison. 2. Non pas une, mais deux phases liquides à la surface. Des hydrocarbures à l'état stable et de l'eau de façon transitoire. 3. De l'eau liquide stable en profondeur. 4. De l'énergie pour enclencher des réactions chimiques. Celles du Soleil, mais aussi celles résultant de la chimiosynthèse, c'est-à-dire libérées par les réactions chimiques elles-mêmes. 5. Sans doute des minéraux pouvant servir de catalyseurs aux réactions chimiques. Reste à savoir si cela a suffi pour faire progresser la chimie organique de ce satellite de Saturne vers une chimie prébiotique, voire vers une biologie. Rendez-vous sur Titan au milieu des années 2030 pour le découvrir. Alice Le Gall, alors cette possibilité d'une exobiologie sur Titan.
Oui, effectivement, comme je le dis, tous les ingrédients sont là, sont réunis sur Titan, donc tous les ingrédients nécessaires à la vie telle qu'on la connaît, hein, c'est-à-dire de la matière organique, un liquide, même deux liquides, si j'ose dire. On a parlé des hydrocarbures liquides à la surface, mais dans les profondeurs de Titan, sous la surface, il y a de l'eau liquide aussi. Titan est ce qu'on appelle un monde-océan, au même type qu'Encélade, qu'Europe, autour de Jupiter. Et puis, différentes sources possibles d'énergie, autres que solaire, les réactions chimiques aussi peuvent fournir de l'énergie. Donc, tout cela fait que Titan est aujourd'hui une des cibles privilégiées de l'exobiologie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la NASA a sélectionné il y a quelques années une mission pour y retourner et pour essayer justement de comprendre à quel point la matière organique, la chimie organique a pu progresser à la surface de Titan. Est-ce qu'on peut trouver sur cette surface des molécules qu'on appelle prébiotiques, c'est-à-dire précurseurs de la vie telle qu'on la connaît, voire même, mais ça c'est plus spéculatif, des biosignatures, c'est-à-dire des signatures d'une forme de vie actuelle.
Oui, c'est la mission Dragonfly de la NASA, dans le cadre de la mission Discovery, qui vise en effet à faire se poser un drone sur Titan en 2035. Le lancement est prévu juin 2028. On a un site d'atterrissage en plus de Dragonfly.
C'est ça. Donc c'est une mission absolument incroyable, très ambitieuse. Envoyer quand même un drone sur Titan, et pas un petit drone. Hein, c'est pas... Donc il y a déjà eu un drone sur Mars, mais c'était un drone de 2 kilos. Là, on parle d'un drone qui fera presque une tonne et qui a l'envergure d'une voiture compact à peu près, donc c'est quand même un gros engin, et qui effectivement va aller se poser alors dans un premier temps dans les zones des dunes, entre deux dunes, donc on imagine que c'est une zone assez, assez plate et dépourvue de cailloux, donc pas trop dangereuse pour son premier atterrissage, qu'il fera de façon tout à fait autonome. Hein. On ne peut pas piloter à distance un drone.
Encore une fois, distance, oui.
Voilà, le temps d'aller-retour des signaux entre la Terre et Titan, c'est 1h30. Donc, bon, c'est compliqué pour piloter en temps réel. Et sa destination finale, c'est pas ces dunes, c'est un cratère d'impact qui s'appelle Selk, qui est un cratère d'impact assez jeune. Et quand je dis jeune, hein, c'est plusieurs centaines de millions d'années, mais c'est jeune à l'échelle du système solaire qui a 4,5 milliards d'années. Et au niveau de cet impact, ben, quand l'impact a été créé, en fait, donc l'impacteur a fait fondre la croûte de glace de Titan. Et donc, pendant un certain temps, peut-être des milliers d'années, il y a eu de l'eau liquide à la surface. Évidemment, elle a fini par geler, par se recristalliser, mais pendant, peut-être, je le disais, plusieurs milliers, même dizaines de milliers d'années, de l'eau liquide a pu côtoyer de la matière organique et forcément, il y a des réactions chimiques qui ont dû s'enclencher. Et ce que va chercher à faire Dragonfly, c'est aller au plus près de ce cratère d'impact, sur ce qu'on appelle sa couverture d'éjecta, collecter de la matière et essayer de voir comment la matière organique a pu évoluer, y rechercher d'éventuelles molécules prébiotiques dont je parlais tout à l'heure ou d'éventuelles biosignatures.
Sur ces traces d'eau liquide à la surface de Titan, je pense aussi aux images de 2005 de l'atterrisseur justement Huygens qui s'était posé à la surface de Titan et où on voit comme ça à premier coup d'œil une surface plate, des cailloux, mais des cailloux arrondis.
Exactement, on voit des galets et c'est pour ça que quand tout à l'heure je vous parlais des rivières de Titan où on pense à partir des images radar qu'il y a peut-être des galets de glace sur leur lit, ben c'est pas totalement déconnecté de la seule image qu'on a donc de la surface de Titan qui est celle prise par Huygens en 2005 maintenant, donc il y a exactement 20 ans et on sait maintenant que Huygens a atterri dans le lit asséché d'une rivière ou d'un lac. Et on sait que, et c'est en voyant ces images qu'on a compris tout de suite qu'il y avait effectivement une forme d'activité fluviale sur Titan, même si le liquide, ce n'est pas l'eau liquide, hein, c'est les hydrocarbures liquides. Mais il y a une forme d'activité fluviale et qui façonne les paysages.
Une sorte de paléolac comme celui qu'on observe à Rice Strake, qui est dans la vallée de la mort aux États-Unis.
Exactement.
Et une dernière image aussi que je trouve assez marquante, c'est cette image du lac Ligeia Mare, qui est situé au pôle Nord. Alors ça, une image comme celle-ci, bon, peut-être qu'on peut la décrire pour nos auditeurs qui ne l'ont pas sous les yeux, mais comment on obtient une telle colorimétrie, par exemple?
Alors, les images radar sont en noir et blanc.
Voilà.
Donc, toutes les images que vous verrez qui sont colorisées, bah, ce sont des fausses couleurs. Ça donne un petit peu de... C'est pour l'aspect esthétique. Mais les lacs, on les repère très facilement parce qu'ils sont noirs sur les images radar. Pourquoi? Parce que quand on envoie une onde, on l'envoie de façon oblique. Et les lacs sont tellement plats, tellement lisses, même s'il y a quelques vaguelettes à l'échelle de la longueur d'onde, ils sont lisses, qui renvoient toutes les ondes du radar dans ce qu'on appelle la direction spéculaire, c'est-à-dire symétrique par rapport à la perpendiculaire à la surface. C'est comme un miroir qu'on regarderait de façon oblique. Du coup, il n'y a aucune onde qui revient par le radar, qui revient vers le radar, et les lacs apparaissent totalement noirs sur les images radar. Mais du coup, on peut vraiment, véritablement bien voir leurs contours et les rivières qui débouchent aussi dans ces lacs. Donc, ils sont très facilement repérables parce qu'ils sont tout noirs.
En tout cas, sur ces images, je trouve ça très saisissant, ce sol ocre doré presque et un lac aux couleurs bleu buvard. Alors, quelles sont ces autres missions qui vous attendent pour le futur? Restez avec nous. Save me. Kid North, Titan, en direct sur France Culture. Car pour notre grand entretien du jour, on rencontre une planétologue spécialiste des surfaces et des sous-sols planétaires et qui est une passionnée de Titans. Alice Le Gall est notre invitée aujourd'hui, planétologue, enseignante-chercheuse à Sorbonne Université, au Latmos et médaille de bronze du CNRS 2018. On a beaucoup parlé des paysages, de la cartographie de Titan. On peut parler un peu plus précisément maintenant de cet autre satellite saturnien qui a des caractéristiques assez étonnantes, c'est Encelade.
Oui, Encelade, c'est donc une autre lune de Saturne, nettement plus petite que Titan. Encelade, c'est simplement 500 km de diamètre. Hein. On ne l'a pas dit, Titan, c'est plus de 5000 km de diamètre. Titan est la plus grosse lune de Saturne, mais plus grosse que même la plus petite de nos planètes. Donc Encelade, on est sur des dimensions bien différentes. 500 km, c'est la distance Paris-Brest. Et pourtant, c'est un des corps les plus actifs du système solaire. On a observé au pôle sud d'Encelade des geysers, des panaches de matière qui sont crachés par quatre grandes failles qu'on a appelées les rayures du tigre. Et ces panaches de matière sont essentiellement constitués de glace d'eau, de cristaux de glace d'eau, avec aussi un peu de matière organique, un peu de sel, et qui viennent de l'océan interne d'Encelade. Donc Encelade, comme pour Titan, est un monde océan, c'est-à-dire qu'il cache sous sa croûte de glace un océan d'eau liquide, mais qui peut être, notamment au pôle sud, est vraiment pas très très loin de la surface, peut-être que 2 km sous le sous-sol.
Et c'est pour ça qu'on pense que Encelade est l'environnement le plus à même d'abriter, de maintenir la vie, alors pas à la surface, mais dans cet océan liquide.
C'est ça, dans cet océan, plus précisément au niveau du plancher de cet océan. Donc cet océan qui fait peut-être 40 km d'épaisseur et en contact direct avec le manteau ou le noyau rocheux d'Encelade. Et sur le plancher de l'océan, un peu comme sur nos planchers océaniques, eh bien, on a des indices d'activité hydrothermale. Donc il se passe des réactions chimiques. Et il fait aussi beaucoup plus chaud. Hein. À la surface d'Encelade, il fait moins de 100 degrés. Au niveau du plancher de cet océan, il peut faire jusqu'à 90 degrés. Donc des conditions beaucoup plus propices aux réactions chimiques qui sont, en tout cas, comme on le comprend, nécessaires à la vie telle qu'on la connaît.
Et c'est pour ça qu'une mission est en cours de préparation et à destination d'Encelade, arrivée prévue en 2058. Va falloir être un peu patient.
Exactement. C'est une des grandes tâches auxquelles je m'attelle en ce moment. C'est pas toute seule, évidemment. On est tout un groupe à préparer cette future mission de l'Agence spatiale européenne vers Encelade. Donc, c'est une mission qui partira dans les années 40, qui arrivera alors un peu plus tôt que ça dans le système de Saturne, hein, au début des années 50, mais qui prévoit effectivement de poser sur Encelade, au pôle sud d'Encelade, justement au plus près de ces failles d'où sortent les geysers d'Encelade, un petit atterrisseur pour analyser la composition de la surface, qui est essentiellement en fait les retombées des panaches. Et donc cet atterrissage, il aura lieu en 2058. Donc j'ai calculé que, par exemple, si on a des auditeurs de 12 ans, ben, ils auront mon âge quand cette mission arrivera. Donc ils seront peut-être, certains d'entre eux seront peut-être impliqués dans cette mission, responsables d'instruments. Et puis ils encadreront très probablement des doctorants, des doctorantes qui ne sont pas encore nés.
Mais c'est des temporalités de cathédrales, de construction, de chantiers de cathédrales, ce que vous décrivez.
Exactement, et c'est tout. C'est aussi ce que j'aime dans l'exploration spatiale, c'est que ben on travaille sur du temps long, sur plusieurs avec et sur plusieurs générations. La mission Cassini, dont on parlait tout à l'heure, c'est une mission qui a été décidée dans les années 80, qui est partie en 97, arrivée en 2004 dans le système de Saturne, qui est restée 13 ans et demi, et aujourd'hui on est presque 10 ans après la fin de la mission, on est encore nombreux à travailler sur ces données. Voilà, ce sont des missions qui s'étalent sur des décennies, donc assez à contre-courant de ce monde où tout doit aller toujours plus vite, assez à contre-courant effectivement du rythme de la politique ou bien du rythme économique, mais qui nous rappelle combien c'est important de transmettre, d'assurer, de garantir ce transfert de connaissances. Et moi, ça me plaît de jouer ce rôle de trait d'union, voire même de comme ce qu'on fait pour Encelade, de semer des graines que d'autres générations iront récolter. Comme moi, j'ai pu bénéficier de ce que mes prédécesseurs, de ce que mes collègues plus anciens ont semé.
Oui, mais alors cette mission d'ailleurs de l'ESA, elle n'a pas encore de direction Encelade, elle n'a pas encore de nom, c'est ça?
Non, pour l'instant, alors on l'appelle la mission L4 vers Encelade. Les missions L de l'ESA, ce sont des missions dites large, donc grandes, donc ce sont les missions les plus ambitieuses, les plus coûteuses aussi. Il y en a eu déjà trois de sélectionnées, c'est pour ça que celle vers Encelade sera la quatrième, donc d'où la mission L4. Mais bien sûr, on lui trouvera un joli nom le temps voulu.
Autre mission ambitieuse, bientôt, ExoMars, hein, bon, qui devait être lancé fin 2022. Nouveau lancement prévu en 2028. Ça fait plus de 10 ans que vous travaillez sur le radar embarqué du petit rover Rosalind Franklin.
Ah oui, alors c'est une mission qui a un parcours plus, disons...
plus tumultueux.
Tumultueux, ça fait même plus de 15 ans, effectivement. Et mon laboratoire a conçu en grande partie le radar à pénétration de sol de cette mission, donc qui prévoit de déposer à la surface de Mars un rover, le rover Rosalind Franklin, et d'explorer une zone qui s'appelle Oxia Planum, qui est une zone très âgée, très vieille, sur Mars. Donc quand je dis vieille, c'est plus de 3,5 milliards d'années, une région de Mars où, on le sait, on en a des preuves minéralogiques et morphologiques, l'eau a coulé. Elle ne coule plus, évidemment, aujourd'hui, mais elle a coulé il y a 3,5 milliards d'années. Donc ce radar va explorer, enfin, le rover va explorer cette région et va, avec comme but notamment, d'y rechercher, là aussi, des traces potentielles de vie passée. Présente, c'est quand même moins sûr, mais passé. Non plus maintenant à la surface, parce que la surface de Mars, en fait, est un environnement extrêmement hostile, soumise à des radiations, à des variations de température, à l'oxydation. Donc on se dit que si un jour, notamment lorsque l'eau coulait, la vie est apparue sur Mars, eh bien, et s'il en reste des traces, il faut le chercher dans le sous-sol. Donc la mission ExoMars est munie d'une foreuse qui ira prélever des échantillons jusqu'à 2 mètres sous la surface. Et le radar, qui a été développé dans mon laboratoire, a pour objectif, entre autres, de guider ces opérations de forage, d'être sûr qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de cailloux sous la foreuse, et puis aussi d'aider à sélectionner des sites de prélèvement pertinents, où on pense que peut-être, par exemple, des rivières enfouies ou de la matière sédimentaire auraient pu être préservées.
Et puis ces échantillons vont pouvoir être analysés par une sorte de laboratoire chimique au sein même du rover.
Exactement, tout un laboratoire d'analyse chimique qui va rechercher cette matière organique, ces éventuelles aussi biosignatures. Il y a beaucoup de laboratoires français qui sont impliqués dans ExoMars et en particulier dans l'analyse future des échantillons à bord du rover.
Alors je voyais en préparant cette émission que vous avez justement été au Svalbard pour tester les répliques de l'instrument Vis-Dome. Et je trouve ça toujours étonnant en effet de tester des instruments terrestres mais qui vont être utilisés sur des environnements pas du tout terrestres.
Oui, tout à fait. Faute de données martiennes, on se prépare, ça fait longtemps maintenant qu'on se prépare, en allant tester une réplique de notre radar dans différents sites qui sont plus ou moins analogues à ce qu'on pense trouver sur Mars. Donc évidemment, le Svalbard, notamment les glaciers, ce n'est pas des analogues le plus pertinent, mais ça nous permet de préparer toute notre chaîne de traitement de données, d'analyse de données. Et puis, on a quand même au Svalbard des sites qui ressemblent quand même un peu à Mars, notamment des sites où on a des structures polygonales qu'on trouve aussi sur Mars. Donc c'est tout un travail qui est en cours pour être sûr et d'être totalement prêt le jour où enfin on foulera le sol martien.
Et maintenant, en route pour Vénus, pourquoi cette planète a-t-elle si mal tourné? Pourquoi le réchauffement climatique s'est-il emballé là-bas? C'est ce dont on va parler dans quelques instants.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir avec Alice Le Gall, planétologue. On a longuement parlé de Titan. Votre nouvel astre préféré, c'est Vénus. C'est un peu votre nouveau Titan.
Des images spectaculaires, selon le propre enthousiasme de la NASA. Nous sommes en rase-motte au-dessus de la planète Vénus. Nous découvrons son relief extrêmement tourmenté et volcanique grâce à la magie de ces images envoyées par la sonde Magellan. Des images presque trop belles, car reconstituées par un ordinateur et recréées en trois dimensions. Regardons d'ailleurs les progrès réalisés depuis les premières images envoyées il y a un peu plus de 6 mois, du noir et blanc, sans beaucoup de lisibilité. La sonde Magellan avait été lancée en mai 89 par une navette américaine. 16 mois plus tard, elle était au travail, en orbite autour de Vénus après son très long voyage intersidéral. Aujourd'hui, nous découvrons l'un des principaux volcans de la planète en forme de dôme. Les radars de la sonde ont percé la couche de gaz qui empêchait toute observation. La température moyenne est de 400 degrés, confirmation bien sûr que la vie est impossible. 84% de la surface de Vénus est actuellement connue et la mission automatique continue jusqu'à la levée éventuelle du mystère de la création de l'univers.
Le journal de 20h sur la 5 en 1991, Alice Legal, en effet, le radar de la sonde américaine Magellan révèle à ce moment-là la surface de Vénus.
Oui, tout à fait, et c'était il y a 30 ans. Depuis, aucun radar n'a observé la sonde, la surface de Vénus, mais effectivement, donc là, heureusement, on a ces images de Magellan qui a fini par cartographier l'entièreté de la surface avec une résolution d'une centaine de mètres et qui a révélé toute la richesse de la géologie de Vénus, une géologie qui est quand même dominée par le volcanisme. 70% de la surface de Vénus, ce sont des plaines de lave, donc des coulées de lave solidifiées, fragmentées, parfois craquelées. Et puis, partout, des volcans. On a recensé 85 000 volcans sur Vénus. C'est énorme. Et sachant que, encore une fois, notre résolution était limitée. Donc, lorsqu'on aura des images plus détaillées, on devrait en découvrir de nouveau. Ces volcans, ils ont des morphologies variées. Certains ressemblent aux volcans boucliers qu'on trouve à Hawaï. D'autres ressemblent à des cônes pyroclastiques. Et puis, on a des volcans tout à fait exotiques dont on a entendu parler dans ce son, des volcans en forme de pancake, en forme de, moi je préfère dire, de poils mis à l'envers, avec des flancs très abrupts et puis des sommets très très plats et dont on ne comprend pas encore bien le mécanisme de formation, mais qui nous indique, en tout cas tout ça nous indique différents types de lave, parfois une lave très visqueuse comme du miel et qui a du mal à s'écouler, parfois au contraire une lave très très fluide comme de l'huile de moteur. On a aussi vu sur Vénus, on voit d'ailleurs 200 environ canaux ou chenaux qui font penser vraiment très fort à nos rivières, mais qui n'ont absolument pas été sculptés par de l'eau liquide. Il fait désespérément chaud à la surface de Vénus, hein, 470 degrés en moyenne. C'est un des environnements les plus secs du système solaire. C'est véritablement une lave très très fluide qui a sculpté ces rivières, dont la plus longue est d'ailleurs beaucoup plus longue que la rivière Amazon ou le Nil sur Terre. Donc c'est assez impressionnant ces images de Magellan et les futures missions, évidemment, essaieront d'aller encore plus loin et de nous offrir une vision encore plus détaillée de cette surface.
Ouais, une vision plus détaillée de cette surface. En tout cas, 470 degrés à la surface, on imagine qu'on ne va pas envoyer de robots sur place.
Alors, en fait, ça a quand même été déjà fait. Le temps de survie maximum, c'est 2 heures, voilà. Et il y a, je crois que c'est 4 ou 5 de ces robots qui ont réussi à prendre des photos de la surface. Tous ont atterri dans ces plaines volcaniques dont je parlais et donc montrent cette lave solidifiée, craquelée, fragmentée. En tout cas, un environnement très très hostile. Une prochaine mission de la NASA prévoit, elle, d'atterrir dans une région un peu différente de Vénus, dans des régions qui sont un peu plus élevées en termes d'altitude et qui sont peut-être un peu plus âgées, plus vieilles géologiquement que les plaines et où en tout cas il y a eu des déformations tectoniques. On pense que ces régions qu'on appelle les Tesserae seraient peut-être d'anciens continents, paléocontinents, qui ont échappé à un resurfaçage total de la planète qui aurait eu lieu il y a moins d'un milliard d'années. Donc, toute la planète quasiment a été comme inondée de lave, sauf quelques fragments de terre un peu surélevés. Et c'est ces zones-là qui intéressent particulièrement les futures missions, parce que elles nous renseignent sur l'histoire climatique et géologique de Vénus.
Mais le mieux, d'ailleurs, pour mieux comprendre cette histoire sur du temps long, est-ce que c'est pas justement d'envoyer des radars en orbite et de cartographier à nouveau sur du temps long cette planète ?
Oui, bien sûr, et c'est ce qui est prévu, notamment par l'Agence spatiale européenne, qui a sélectionné il y a quelques années maintenant, en 2021, une mission qui s'appelle, cette fois elle a un nom, la mission Envision, qui a à son bord un radar, a même deux radars, c'est exceptionnel, un radar imageur qui va reprendre la cartographie de Vénus, mais cette fois avec une résolution 10 fois meilleure que celle du radar de Magellan. Et il y a même à bord d'Envision un radar sondeur qui, pour la première fois, va essayer de sonder le sous-sol de Vénus et peut-être révélera par exemple différents épisodes volcaniques avec une superposition de coulées de lave ou la structure interne des volcans de Vénus.
Oui, sur cette mission sur laquelle vous planchez également, hein, puisque la mission est d'ailleurs prévue, lancement prévu pour décembre 2030. Il y a tout un tas de questions scientifiques, le volcanisme actif, mais aussi la question de l'eau, la question de l'emballement climatique. Enfin, il y a un très grand nombre de questions scientifiques qui restent en suspens par rapport à cette planète.
Exactement. Vénus, c'est notre voisine. Et on dit souvent c'est notre jumelle parce qu'on a à peu près la même taille. Et pourtant, aujourd'hui, les conditions qui règnent à la surface sont radicalement différentes de celles de la Terre et on ne souhaiterait pas avoir des conditions vénusiennes. Donc toute la question, c'est de comprendre pourquoi, sur Vénus, l'effet de serre s'est emballé. Pourquoi Vénus, qui peut-être à une époque, peut-être il y a justement 3,5 milliards d'années, accueillait de l'eau à sa surface, en tout cas on en a des indices, pourquoi Vénus a perdu cette eau, comment elle l'a perdue, est-ce que c'est juste parce qu'elle est légèrement plus proche du Soleil ou est-ce que c'est un volcanisme qui s'est emballé? Donc on a besoin de comprendre la trajectoire, pourquoi Vénus a pris cette trajectoire infernale, pour aussi essayer de s'assurer qu'on ne prenne pas la même.
Mais pour éviter que notre effet de serre n'en vienne à s'emballer un jour aussi de la même façon qu'il s'est passé, enfin que ça s'est passé sur Vénus, quoi.
Alors ce sera pas exactement la même façon, mais en tout cas on voit bien que dans le réchauffement climatique il y a des fois des effets bascules, des points de bascule, et c'est important à partir desquels on peut plus revenir en arrière, et c'est important de comprendre quand est-ce et comment Vénus a atteint ce point de bascule pour essayer de prévoir quel sera le prochain point de bascule pour la Terre.
Allez, une dernière mission que je trouve assez exaltante également, la mission européenne RAPSES, à destination d'un astéroïde Apophis, qui va d'ailleurs passer très près de la Terre. Alors là, ce sera en 2029.
Oui, alors ça, c'est une mission...
Près, relativement près.
Oui,
on parle de 30 000 kilomètres.
30 000 kilomètres, c'est très près. Mais après, je vous rassure, il n'y aura pas d'effet notable sur Terre. Mais on pourra observer à l'œil nu le passage de cet astéroïde. Donc ça, c'est une mission d'opportunité dans laquelle je ne suis pas directement impliquée, mais à bord de laquelle il y aura un radar aussi, et qui va essayer de sonder la structure interne de cet astéroïde qui va passer au plus près et qui va essayer de comprendre de quoi il est fait. Est-ce que c'est une roche monolithique ou est-ce que c'est un agglomérat de cailloux, de matière? C'est important de comprendre ça parce que ces astéroïdes qu'on voit passer, c'est la matière à partir de laquelle les planètes ont été formées. C'est la matière primitive, c'est la matière première. Et donc, comprendre de quoi ils sont faits, de quoi ils sont constitués, ça nous permet de mieux comprendre la formation du système solaire et des planètes.
Et là, on va aussi, avec cette mission RAMSES, pouvoir aussi également observer comment la gravité terrestre déforme ce corps.
Exactement, puisque cet astéroïde va passer très près de la Terre, il va subir de plein fouet les forces de marée de la Terre. Et donc, probablement subir des déformations qu'on va pouvoir mesurer, alors pas seulement par radar, mais aussi grâce à des géophones, des sismomètres de fabrication française aussi, qui sont construits à Toulouse en ce moment même, et qui vont mesurer ces déformations liées aux forces de marée.
Alice Le Gall, merci. Merci pour cette balade dans notre système solaire. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Mais avant ça, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous avez participé donc à la rédaction du grand livre de l'exobiologie qui vient tout juste de paraître aux éditions Bellin. Et chez le même éditeur, vous avez publié Les mondes de Saturne. C'était en 2022 et c'est toujours en librairie ou en médiathèque. Merci. Merci à vous. Allez, on revient sur Terre. Pour les coraux, un point de bascule vient d'être franchi. C'est la chronique avec science.
Quel est l'état de santé des coraux d'eau chaude? Ce sont les coraux constructeurs de récifs. Ils se distinguent des coraux mous car ils ont un squelette calcaire fabriqué par le petit animal qu'on appelle un polype. Cet édifice sous-marin est à la base de la formation des récifs coralliens, mais l'animal n'est pas seul. Ces coraux vivent en symbiose avec de petites algues unicellulaires, les zooxanthelles, à ne pas confondre avec les grosses algues qui nous intéresseront un peu plus tard. Cette collaboration est essentielle à la santé des récifs et elle est menacée par les activités humaines. Pascale Chabanet est directrice de recherche de l'IRD à La Réunion.
Du coup, ce qu'il faut réaliser, c'est que les eaux tropicales sont des eaux qui sont pauvres en éléments nutritifs. Et grâce à cette symbiose, en fait, le polype et l'algue, en fait, apportent chacun à l'autre ce dont ils ont besoin. Et ce qui crée, en fait, un écosystème aussi productif et riche. Par contre, pour démarrer la symbiose dont je viens de parler, il faut être près des côtes parce que les algues ont besoin de lumière. Donc, c'est vraiment des écosystèmes qui sont associés au milieu côtier. À 20 mètres, on trouve des coraux jusqu'à 20, 30, voire 40 mètres. Ce qui fait que la principale menace pour ces coraux constructeurs de récifs, c'est vraiment les activités humaines. La population humaine aujourd'hui vit principalement près des côtes. Ces activités humaines, en fait, elles incluent la pollution, les déchets qui arrivent en mer, la surfréquentation, la surpêche, tout ce qui peut impacter le milieu marin, en fait, vont impacter ces animaux qui sont très vulnérables, en fait, aux variations de l'environnement, notamment les variations de température.
Lorsque le corail est stressé, il va expulser ses zooxanthelles qui lui donnent sa couleur et le nourrissent. Sans elles, le corail blanchit et s'affaiblit. Il peut résister un moment, mais si le stress perdure trop longtemps, il finit tout simplement par mourir de faim. Et on peut suivre l'évolution de la santé des coraux à l'échelle mondiale. C'est le travail du Global Reef Monitoring Network. Ce réseau utilise la même méthodologie standardisée avec des observations visuelles en plongée dans 10 régions du monde, là où se trouve la majorité des récifs. À partir de ces données et du reste de la littérature scientifique, une équipe internationale composée de 160 scientifiques de 23 pays, pilotée par l'université d'Exeter au Royaume-Uni, a évalué la situation actuelle. Résultat, le rapport conclut que les récifs d'eau chaude ont atteint un point de bascule.
Ce point de bascule, en fait, se situe autour de plus 1 degré à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc aujourd'hui, en fait, le réchauffement global a dépassé ce point, hein, puisqu'on est entre un 3 et un 4. En fait, on est vraiment au niveau du point de rupture. Alors, le point de bascule, ça se traduit tout simplement sur le récif par une dominance des algues, qui fait aujourd'hui qu'on a, sur la majorité des récifs dans le monde, on a vraiment une dominance de ces algues par rapport aux coraux vivants, aux coraux constructeurs de récifs. Ce qui fait que c'est vrai qu'au niveau mondial, ces récifs coralliens sont vraiment en souffrance, si je peux le résumer comme ça, par rapport à ce réchauffement des eaux qui va fragiliser en fait ce qu'on appelle leur résilience, leur capacité à réagir à tous ces impacts humains.
Quand on parle de dominance d'algues ici, il faut bien différencier les micro-algues de la symbiose des macro-algues qui envahissent le récif. Et ça, c'est un signe de dépérissement avancé des coraux. Et c'est un problème puisque les récifs rendent de nombreux services écosystémiques. C'est un habitat pour les poissons, une source de nourriture pour eux et nous, un lieu de stockage du carbone et un rempart naturel contre l'érosion des côtes. Pour limiter leur mort, des solutions existent comme la mise en place d'aires marines protégées, mais rien ne sera jamais aussi efficace qu'une réduction drastique des émissions pour limiter la hausse des températures atmosphériques et donc marines. L'un des coordinateurs de l'étude, Tim Lenton, souligne qu'il faut des décisions politiques fortes, notamment à la COP30 qui s'ouvre à Belém au Brésil lundi prochain. C'est le premier point de bascule à être franchi, mais pas le seul. La fonte de la calotte du Groenland et de l'Antarctique, la déforestation en Amazonie et dans les forêts boréales, ou encore la disparition des herbiers marins, des mangroves et des tourbières figurent aussi sur la liste. Le risque, c'est un effet en cascade sur tous les écosystèmes et donc les sociétés humaines. Et ce basculement n'est pas seulement écologique, c'est aussi une question d'injustice climatique. Si les points de bascule touchent la planète entière, les conséquences frappent davantage les populations qui dépendent directement de ces écosystèmes plus fragiles, surtout en régions tropicales, qui sont donc bien moins responsables du changement climatique.
Merci Alexandra pour votre chronique. Grande nouveauté de cette saison sur France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, en 3 minutes 30 du lundi au dimanche, les meilleurs experts nous offrent un coup de projecteur pour éclairer notre actualité et mettre notre monde en perspective. Tout de suite, le fil Science par Evelyne Meyer, professeure d'anthropologie génétique en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des Humains.
Le fil science.
Pourquoi les humains ont-ils domestiqué des animaux ? Nous, les humains, n'avons pas domestiqué uniquement les chiens et les chats comme animaux de compagnie. Bœuf, porc, chèvre, mouton, lama, lapin. On a aussi domestiqué des animaux dits « d'embouche », c'est-à-dire des animaux pour se nourrir. Cela intervient il y a environ 10 000 ans au néolithique, lorsque les humains deviennent sédentaires. Ils développent l'agriculture, puis l'élevage. Le foyer de domestication le plus ancien au monde est au Proche-Orient, et c'est le bœuf, le porc et les caprinés, chèvres et moutons, qui ont été domestiqués les premiers. À partir d'aurochs ou de zébus pour le bœuf, de sangliers pour les porcs, ces espèces se sont transformées à la suite de la domestication. Les vaches et les chèvres sont élevées pour leur viande, mais aussi, très probablement, pour leur lait. Environ 1000 ans plus tard, on retrouve des traces d'une autre domestication du porc en Chine, puis en Amérique, les humains élèvent le lama ou l'alpaga, et à la même période en Afrique, les humains domestiquent des ânes. Le seul animal dont la domestication a eu lieu en Europe, c'est le lapin. Et c'est bien plus tardif. C'est d'ailleurs fascinant que l'on retrouve ces domestications de différents animaux partout dans le monde et de manière totalement indépendante. Mais la toute première domestication de l'histoire est bien celle du chien, et pas pour le manger. Quand Homo sapiens sort d'Afrique, il y a environ 70 000 ans, il rencontre des populations de loups, en Europe ou en Asie. Humains et loups sont probablement en compétition pour les mêmes proies, ce qui rapproche les deux espèces. Le processus de domestication débute et cela prend du temps. Humains et loups se côtoient et au fil du temps, le loup devient chien. La domestication s'intensifie ensuite lorsque les groupes humains se sédentarisent dans les villages. Les ossements de chiens deviennent beaucoup plus nombreux dans les sites archéologiques, dans de nombreuses régions d'Europe et d'Asie. Mon collègue Jean-Denis Vigne décrit un de ces moments. À cette époque, on peut imaginer que les chiens côtoient les humains dans les villages. Par exemple, ils nettoient les rues des villages, des déchets, et certains ont même pu être des animaux de compagnie déjà. Humains et chiens sont donc amis depuis des milliers d'années. Toujours, selon Jean-Denis Vigne, les chats ont très vite apprécié les rongeurs qui se répandaient dans les villages pour manger les grains stockés. Je parle ici des rats et des souris. Les humains auraient alors, en retour, bien apprécié leur présence et ils seraient devenus nos compagnons. On en a retrouvé la trace à Chypre dans une tombe datant de 7300 ans avant notre ère. Ainsi, pour les chiens et chats, des intérêts communs nous auraient rapprochés, auraient créé cette familiarité. On le voit, nos relations aux animaux sont bien anciennes et variées. Elles n'ont cessé d'évoluer dans le temps et ce sera encore le cas demain.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.